on peut commencer. Donc, vous me dites que vous m'aviez présenté, j'ose espérer que vous n'avez pas trop mal présenté. Ça va pas? Ah ben, je ne sais rien, moi. Alors, comme ça va?
Très bien.
Et maintenant?
Oui.
Bon. Bon, ben, si ça... Alors, bah, tout d'abord, si vous voulez, comme toute chaque fois que l'on est invité quelque part, le comportement d'un gentleman veut qu'on remercie. Et de tout cœur, je vous remercie de m'avoir invité. C'est pas la première fois que je viens dans vos locaux. Et il faut croire, enfin, les rencontres ne s'y passent pas trop mal, puisque ça continue. Vous m'aviez demandé de vous parler de la vie et de la mort. Et quand le docteur Ventre m'a proposé ce sujet, ma première réaction, ça a été de lui dire « Vous n'avez donc rien de plus facile. » Et ça fait longtemps que je rumine sur cette question-là. Or, en fait, je m'en vais, si vous voulez, mettre réflexion sur ces deux thèmes, vie et mort, et j'en introduis un troisième que je prendrai tout au long de mon propos, c'est vie et mort et espérance chrétienne. Et comme vous me demandiez un texte biblique pour donner la tonalité de mon intervention, je me suis rapporté à... Il y en a des quantités de textes, bien évidemment, vous le savez comme moi. Je me suis arrêté à ce texte de Paul dans la première aux Corinthiens. « Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vide et vide aussi votre foi. » Et un peu plus loin, si nous avons mis notre espérance en Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Je vous donne ces deux phrases, et notamment la deuxième, parce que c'est précisément une de celles sur lesquelles j'ai médité depuis longtemps, et ça n'a pas été aujourd'hui. Or, ce que je voudrais m'attacher à faire, c'est mettre en évidence le regard de foi sur la vie et la mort. Donc, alors, si vous voulez, question tout de suite au point de départ, comment comprendre ce que nous nommons la vie et ce que nous nommons la mort? Une question qui ne peut pas être posée, vous vous en doutez bien, sur le registre purement scientifique, mais bien sur celui de l'existence. Parce que si je me place du point de vue scientifique, vie et mort s'opposent, bon, comme nous le savons bien, s'opposent comme la marche et l'arrêt des fonctions vitales. La marche des fonctions vitales, le bon fonctionnement de chacune d'entre elles, est indice de vie, leur arrêt est indice de mort. Cependant, tant que nous décrivons de ce point de vue-là, nous en tenons d'un point de vue extérieur à l'existence, je veux dire au vivre quotidien et au souci de vivre de chacun des hommes. Or, quand nous posons la question de la vie et de la mort, c'est bien l'existence qui est au centre, lorsque nous essayons de comprendre l'une et l'autre. Or, point de vue de l'existence, qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que l'existence, c'est tout simplement nous-mêmes, notre façon d'habiter la vie, notre façon de nous interroger sur la vie et sur la mort. Or, cette question, elle se présente comme à double face. Elle est au sujet de l'être de ce vivant que nous sommes, d'où alors les questions vont venir. Qu'est-ce que c'est que cela que vivre dans le quotidien de nos relations, de nos occupations, de nos soucis? Et qu'est-ce que cela, habiter ce temps de vie d'une manière humaine? Bon, que nous ayons tant de temps à vivre, soit, mais d'autres vivants que sont, mettons, les animaux en ont aussi, mais qu'est-ce que cela a que l'habiter d'une manière humaine? Et en même temps, c'est une question au sujet de notre destination ultime. Parce que nous ne pouvons pas nous interroger sur nous-mêmes, sur notre existence, sur notre façon d'habiter la vie et d'être en relation avec les êtres, sans se poser la question de ce destin que nous sommes, nous qui sommes des êtres vivants humains, qui parlons et qui pensons. Or, cette question nous amène à remarquer que depuis le temps de la naissance, nous sommes dans la vie. Et la vie, nous l'habitons d'une manière telle que, en quelque sorte, elle coïncide avec nous-mêmes. Exister comme un homme et être vivant, cela veut dire, par peu près, si vous voulez, la même chose. Je veux dire, encore une fois, toujours, dans le quotidien de la vie, de nos relations, de tout ce que nous faisons, de tout ce que nous, notre façon d'être. Bon. Or, nous nous éprouvons donc toujours comme des vivants, mais À moins que d'être naïf, nous savons bien que nous sommes voués à la mort. Or, la mort, c'est tout à la fois ce qui nous est familier et ce qui nous est parfaitement inconnu. Ce qui est familier, puisque nous savons qu'autour de nous, il y a des gens qui meurent, que ce soit des êtres plus lointains ou bien des proches, et cela nous affecte d'une manière plus ou moins profonde. Mais en même temps, c'est le totalement inconnu, parce que de la mort, nous ne savons rien, sinon que c'est la cessation de la vie, et puis après, on n'est pas plus avancé. Et alors, c'est qu'en effet, la mort est... Et c'est là que je me rapporterai au fameux grand monologue de Hamlet, si extraordinaire dans le premier acte de la pièce du même nom. C'est là que Hamlet parle de la mort en disant qu'elle est cette région des confins dont nul voyageur n'est revenu. Et c'est au fond ça qui ne cesse de nous hanter et de nous marquer, si je veux dire, nous voulons y réfléchir d'une manière un tant soit peu rigoureuse. Et alors, pour rapprocher cette question vie et mort, je viens de vous citer Paul tout à l'heure, je voudrais maintenant me rapporter à un autre texte qui n'a rigoureusement rien à voir avec le texte biblique, c'est l'épopée de Gilgamesh. Je ne sais si vous êtes familier de ce livre extraordinaire écrit il y a plus de deux millénaires et demi dans le Proche-Orient, rien à voir avec le texte biblique, un texte qui est assez abîmé parce que d'abord Plimo, il n'est traduit que depuis une date très récente, on a réussi à reconstituer le texte. Or, c'est donc le premier livre que nous ayons, en quelque sorte, écrit de main humaine. Or, je voudrais la retenir deux éléments. Qu'est-ce que c'est que l'épopée de Gilgamesh? Gilgamesh est un prince, il va se faire un ami qui est Enkidu, ils vont vivre ensemble un moment et Enkidu va mourir, et à ce moment-là, ce sera la grande quête de Gilgamesh pour chercher la racine d'immortalité qu'il ne trouvera pas. Or, je voudrais retenir deux moments de cette épopée de Gilgamesh. C'est tout d'abord l'avènement de Enkidu à la forme humaine. C'est si ce texte est assez prodigieux, c'est qu'il commence par nous raconter ceci. D'où vient Enkidu? Il vient des hardes d'animaux qui courent dans la steppe. Nous sommes dans le Moyen-Orient, qui courent dans la steppe, là. Et ensuite, il est en quelque sorte initié. Il est initié par la sexualité, par la cabaretière. Il était initié par la même cabaretière qui lui fait manger de la nourriture cuite et de la boisson, c'est-à-dire du pain, et de la boisson fermentée, donc totalement différent de ce qui était avant. Or, qu'est-ce qui se passe alors? Alors, Enkidu devient un homme. Et c'est là que la cabaretière a cette formule que je trouve si belle, « Tu es beau comme un dieu ». Le moment même où l'homme apparaît, sort simplement d'un animal et apparaît comme ce vivant humain, il est beau comme un dieu. Si je voulais prendre des textes de Homère, je dirais qu'il est théoïdès, de forme divine. Il y a quelque chose, par conséquent, qui marque la rupture complète. Et je prends le premier épisode. Le deuxième épisode, c'est le moment où Enkidu vient de mourir. Et c'est là que nous avons l'effroi de Gilgamesh devant le cadavre de son ami Enkidu. Je vous prends quelques passages de la dixième tablette. Je prends les répits parce que je prends l'édition qui a été faite au CERF. Vous en avez d'autres éditions, si vous voulez, plus complètes, avec toutes les religions du Moyen-Orient, qui sont tout à fait passionnantes à explorer. Alors je prends c'est pas des chapitres ni les pages, sont donc d'armes à des tablettes. C'est dans la dixième tablette que, d'après le poète qui écrit, Gilgamesh dit « Comment me taire ?» Comment garder le silence? Enkidu, mon ami que j'aimais, est devenu semblable à de l'argile. Moi-même, comme lui, ne vais-je pas me coucher pour ne plus à tout jamais me lever. Et à la tablette précédente, dans la neuvième, il avait déjà dit « L'angoisse est entrée dans mon cœur et par peur de la mort, je vais errant dans le désert. » C'est-à-dire que ce qui m'intéresse là, sur quoi je veux précisément ce que je veux souligner, c'est que déjà dans ce premier texte que nous connaissions, enfin il y en a peut-être du avant, mais on n'en sait rien. Dans ce premier texte que nous connaissons de l'histoire de l'humanité, nous avons cet étonnement devant le mystère de la vie que découvre Enkidu et l'effroi de Gilgamesh devant l'énigme de la mort. Alors c'est-à-dire que, qu'est-ce donc que cette vie? Eh bien, cette vie, encore une fois, si nous ne passons pas d'un point de vue biologique qui ne nous avance pas à grand-chose, Eh bien, c'est tout simplement l'ouverture sur des possibles indéfinis. Parce que le vivant humain est un être qui est ouvert par la parole et la pensée. Cette chose très, très étonnante, qu'est-ce qui fait que nous, qui sommes des hommes, qu'est-ce qui fait que nous sommes des hommes? Tout simplement, nous sommes capables de parler. Et nous, par là, nous nous ouvrons sur la pensée. Et alors, l'histoire humaine commence. Alors, si vous voulez qu'on en décrive un peu, il faut que vous me le permettiez de dépasser largement au-delà de 13 heures. Bon. Vous voyez une discrète invitation comme ça, invitation à me faire inviter à nouveau. C'est-à-dire que nous ouvrons, sous forme de plaisanterie sans temps. C'est-à-dire qu'au fond, qu'est-ce qui se passe là? Cette espèce d'ouverture sur des possibles sans fin. Et en même temps, la vie pour nous autres, c'est la force de tous les liens affectifs qui nous lient les uns aux autres, je n'ai pas besoin de développer. Et qu'est-ce que c'est que la mort alors? Eh bien, c'est tout simplement l'effacement de tous ces liens. C'est le silence. Je puis me tenir en face de la femme que j'ai aimée dans ma vie, et elle, à ce moment-là, elle est silencieuse, muette et inerte. C'est-à-dire que vie et mort s'opposent comme s'opposent présence et absence. Voilà, en quelque sorte, si vous voulez, comme point de repère. Mais allons, je voudrais franchir un pas de plus. En parlant de vie et de mort, je voudrais dire que ce temps de vie que nous avons à vivre se situe toujours pour nous autres entre le mystère et l'énigme. Nous sommes sans cesse confrontés, enfin, à moins que de ne pas vouloir y prêter attention et de s'enivrer de n'importe quelle manière, nous sommes toujours confrontés à, d'un côté au mystère, de l'autre à l'énigme. Je disais à l'instant que c'est l'expérience très quotidienne du être dans le monde, dans la vie avec les autres. C'est-à-dire que ce que nous appelons comme expérience, je ne parle pas d'un point de vue scientifique, c'est autre chose, même si le terme peut être également utilisé. Qu'est-ce que c'est que l'expérience? Eh bien, c'est d'une manière très générale le contact immédiat avec une réalité extérieure avec nous-mêmes. Et un contact sans médiation, de la même manière que lorsque je touche les choses, par exemple, il y a cette espèce de contact immédiat, pur et simple. Mais en même temps, puisque là, encore une fois, nous sommes des êtres humains et non pas n'importe quoi, ce contact a toujours besoin d'être médiatisé, c'est-à-dire de passer par un intermédiaire. Et quel est cet intermédiaire? C'est la parole même. Si nous avions beaucoup de temps, je voudrais analyser un cas de l'expérience très très quotidienne où nous avons tout à la fois cet aspect le plus immédiat et en même temps ce besoin de la médiatisation. C'est tout simplement la caresse. Dans la caresse, la main touche le corps de l'autre et en un certain sens, ce contact peut être parfaitement muet. Mais si cela veut devenir caresse humaine et non pas simplement contact quelconque, il faut à ce moment-là que ça ouvre à une parole, tout simplement, qui est une parole d'amour. Alors voyez ce que je veux dire par là, à la fois le plus immédiat et le passage par autre chose, c'est la parole qui dit le sens de ce que je suis en train de faire, et en même temps la parole est confirmée par ce que je suis en train de faire. Pour reprendre cela, si vous voulez, l'expérience, c'est donc cette relation d'ouverture et d'engagement, relation aux autres, travail, etc., etc. Mais, et c'est là où je veux en venir, c'est que toute notre expérience de vivant humain est toujours en rapport à des confins. Et je parlerai dans mon propre travail ailleurs, là, de confins de l'expérience. Confins, j'entends par là des zones limites, des zones inexplorées, et pourtant qui sont totalement, totalement essentielles au vivre humain. Ce sont des zones qui échappent à notre expérience ordinaire et que nous ne pouvons pas traduire en mots parce que tout simplement nous n'avons pas les mots pour le dire. Or, quels sont précisément ces confins de toute vie des hommes? Eh bien, c'est ce qu'on peut désigner comme mystère et ce qu'on peut désigner comme énigme. Je parlerai, si vous voulez, tour à tour de l'un et de l'autre. Or, qu'est-ce que nous désignons comme le mystère? Eh bien, c'est tout simplement le temps du commencement, celui de la naissance. Et si vous avez été assez attentif à la naissance d'un enfant, quand on le voit sortir du ventre de la mère, émerger et entrer dans le monde des vivants, et ensuite émerger dans les paroles, lorsqu'il se met à s'approprier les mots, on voit bien qu'il y a une espèce de longue venue. Qui est-il, celui qui vient ? On n'en sait rien encore. Or, il y a donc, en quelque sorte, si vous voulez, comme un mystère là. Et c'est le mystère le plus important, et c'est celui-là pour lequel j'accorderai le plus d'importance encore, c'est le transcendant qui est le divin lui-même. Cette réalité à quoi partout et toujours dans toutes les sociétés, dans toutes les cultures, on trouve ça. Les hommes se rapportent à cette réalité-là. Je prends un terme neutre pour le moment, simplement, puisque le terme de Dieu en français n'a pas cette connotation neutre-là. Il y a donc cette espèce de réalité-là, parce que c'est là, ce rapport est important, puisque c'est là que notre destin prend forme et prend sens. C'est parce qu'il y a ce rapport à cela. Alors après, vous donnez les noms que vous voulez, c'est, je dirais, presque un peu secondaire. Or, cette réalité qu'est le divin, les hommes, au fond, je viens de vous dire, ont une espèce d'affirmation constante et partout. On l'appelle le saint, le sacré, bon, peu importe. En même temps, vous avez des représentations très variables. Et si on se met à étudier l'histoire des religions, alors c'est là qu'on aperçoit qu'il y a des représentations variables selon les lieux, les endroits, les moments de l'histoire. Or, si je parle de mystère ici, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, c'est que mystère, je dirais plus exactement, la figure du mystère, c'est à mon sens la lumière. La lumière, et je dirais même un surcroît de lumière. La lumière, c'est ce qui nous permet de nous repérer dans le monde, bon, chacun sait cela. Mais il y a, si vous voulez, un espèce des moments de surcroît de lumière, d'une lumière qui peut être aveuglante, je veux dire qui n'empêche pas de voir, qui peut troubler la vue à un moment donné, mais c'est là qu'il y a une source essentielle. Pour vous prendre un analogue, prenons l'expérience humaine. Et prenons, si vous voulez, dans l'expérience humaine, l'amour humain. Est-ce que la présence de l'autre n'est pas visage et parole qui est comme un éblouissement, du moins si ça ne s'écroule pas dans l'habitude à qui ça fadit, etc. Et ce n'est pas tout à fait par hasard qu'au point de départ de ce même amour, nous parlons d'un coup de foudre. La foudre, cette espèce de lumière fulgurante. Bon, alors on ne va pas se mettre à décrire les différents coups de foudre possibles. Mais au fond, vous voyez ce que je veux dire ici. En parlant de mystère, je veux parler de lieu, de point lumineux, de point qui est une espèce de lumière intense, et cela qui oriente notre vie. Et si je prends alors l'énigme maintenant, l'énigme, eh bien, il y a, je dirais, comme une double énigme à quoi nous ne cessons de nous heurter au long de notre vie. C'est tout d'abord le mal dans le monde, celui qui est capable de rendre l'homme meurtrier. Pourquoi donc des êtres humains sont-ils capables de devenir meurtriers et, de surcroît, de prendre plaisir à ça ? Qu'il y ait des meurtriers, mais on le sait depuis que le monde est monde. Mais la question, c'est pourquoi ? Pourquoi donc est-ce qu'il y a une espèce de jouissance extraordinaire là ? Je ne vais pas entrer dans toutes les investigations psychanalytiques, c'est autre chose, mais il y a ce point de nuit dans notre expérience humaine et qui est le mal. La deuxième étant la mort, pas évidemment, qui est la figure même de l'énigme, c'est-à-dire la nuit impénétrable. Devant la mort, la vue est impossible, la pensée est en échec, comme s'il était devant un impensable, un inexprimable. Et par le fait même, elle est vouée à la peur devant l'imprévisible. La mort fait peur, à moins que vous ayez réussi à l'apprivoiser d'une manière telle. Donnez-moi votre recette, je serai bien content. Alors, voyez, reprenons ces analyses que je viens de faire là, à savoir, si vous voulez, cette espèce de cheminement dans la vie, avec les confins que sont énigmes et mystères. Et si je veux maintenant, reprendre toutes ces questions là, à la lumière, c'est en quelque sorte de la foi chrétienne. Celui qui est donc tel, qui vit là-dedans, qui est entré, peu importe là, c'est donc un être humain qui ne peut pas ne pas savoir qu'il est un éphémère. S'il ne le sait pas, il est un sot. remarquer quels sont les gens qui ne savent pas qu'ils sont des éphémères dans la vie. C'est tous les conquérants. Tous les conquérants, tous, oublient une chose, c'est qu'à un moment donné, il faudra mourir, et par conséquent, ils ne pourront pas parcourir la terre entière. Sauf peut-être l'un des tyrans les plus cruels et les plus lucides. C'est dans les confidences que Staline avait fait à De Gaulle, vous trouvez ça quelque part dans les mémoires de De Gaulle, c'est Staline déclarant à De Gaulle un soir au Kremlin, et en fin de compte, c'est la mort qui aura le dernier mot. Et ça, tous les tyrans l'oublient. Bon, je ne vais pas entrer dans le détail. Donc, à la fois, il est un éphémère, une poussière minuscule et une simple ombre qui passe dans l'immensité des temps. Et dans le même temps, et c'est cela que nous appelons précisément notre foi chrétienne, c'est celui qui se sait convié dans la proximité de son Dieu. Et je retiendrai, si vous voulez, trois éléments qui pour moi sont très forts là, dans cette sentiment de cette proximité. Ce qui est au centre de cette foi, c'est d'une part la fameuse formule, vous savez, de début de Genèse, puisque là où il est dit que le Dieu fait l'homme à son image et ressemblance. C'est le deuxième point de référence, c'est pour moi le psaume 8. Ceux qui m'ont déjà entendu savent que j'ai une espèce de prédilection pour ce psaume, que voulez-vous, c'est comme ça, je l'aime beaucoup. C'est là qu'il n'est dit que l'homme est dans le souci de son créateur. Qu'est-ce donc que l'homme pour que tu te soucies de lui? Ça, c'est, je dirais, c'est au point central de toute cette conscience de soi qui va apparaître dans cette tradition biblique. Et enfin, c'est celui qui est invité à s'adresser à son Dieu dans la confiance. Et c'est ça le passage extraordinaire de la prière du Notre Père. Et là, il faut réanalyser le détail de ces différentes propositions où d'entrée de jeu, l'homme est convié à se tenir dans un rapport de familiarité avec celui qui l'appelle son Père. Or, c'est cela que nous appelons précisément la foi et qui est le centre même de notre vie. Et je voudrais lier cette remarque sur la foi à l'espérance. Et c'est par là que je voudrais parcourir ma dernière étape. Je dirais, si vous voulez, pour moi, la foi, oui, d'accord. Ce qui me paraît plus important encore, c'est l'espérance. Alors, je vous ferai un aveu. Il se trouve tout simplement que j'étais jeune. J'ai ouvert un livre de Peggy. Et j'ai trouvé cette phrase extraordinaire. Vous savez, Peggy qui se permet le culot de faire parler Dieu. Il faut le faire. Mais Peggy n'est pas tout à fait le premier venu. Bon. C'est là que Peggy fait dire à Dieu, je vous cite de mémoire, « La foi que j'aime, dit Dieu, c'est l'espérance. » Eh bien, qu'est-ce que c'est précisément que l'espérance? Or, si nous essayons de le comprendre, partons bien de ceci, c'est que notre foi est bien évidemment une croyance, comme le sont toutes les croyances ordinaires. Avec cette différence, que nous ne pouvons parler de foi que si nous la comprenons comme une réponse à un appel. Après tout, c'est là que vous voyez, c'est difficile, parce que pour en français, nous n'avons qu'un seul verbe qui veut dire croire, pour deux mots, croyance et foi. Bon, de la même manière, nous n'avons qu'un seul mot, espérer, pour dire espoir et espérance. Bon, or là, cette foi est donc réponse à un appel, et à un appel à reconnaître le Christ comme médiateur entre Dieu et l'homme. Et alors, qu'est-ce donc que cette espérance qui nous invite et sans quoi précisément nous ne serions que les derniers des hommes, comme dit Paul? Eh bien, c'est une affirmation paradoxale. Paradoxale, je m'explique tout de suite. Par paradoxe, ici, je ne vais pas dire une explication contournée, simplement pour un peu aller à l'esbrouf en face de son auditoire. C'est le tout paradoxe. C'est au fond une affirmation au sens du « en dépit de ». En dépit de la mort, en dépit du mal, en dépit de tout ce que voudrait, des limites, etc. et tout, l'espérance demeure. C'est-à-dire qu'en dépit de l'évidence du caractère précaire de la créature mortelle, nous avons cette espérance, c'est-à-dire ce passage à la limite. Et là encore, si vous voulez, comparons avec l'espoir. Vous savez, la sagesse populaire ne se trompe pas qui dit que c'est l'espoir qui fait vivre. C'est vrai. Enlevez l'espoir aux hommes et vous les rendez fous. Mais en même temps, qu'est-ce qu'il y a dans l'espérance? Eh bien, dans l'espérance, il y a ceci, que vous avez cette espèce de même attitude de tension en avant vers le temps à venir, mais en même temps qui va au-delà de la mort. Et cela, en un certain sens, je dirais que nous avons comme une sorte de, si on veut se le représenter, nous avons comme une sorte, si vous voulez, de schéma retourné par rapport à ce que Platon, avec une intuition remarquable, appelle anamnésis dans la plupart des traductions. Enfin, je sais pas les tout récents, je sais pas toutes les traductions possibles imaginables de Platon. On traduit généralement par réminiscence, et ça ne tient pas debout. Pourquoi? Eh bien, parce que lorsque Platon parle de la mémoire, cette mémoire qui est, et à ce moment-là, il emploie le terme de hypomnésis. Est-ce que c'est visible au fond? C'est donc, mnésis, c'est la mémoire. Qu'est-ce que c'est que hypomnésis? C'est la mémoire de ce que j'ai fait tout à l'heure, hier, il y a 10 ans, il y a 20 ans, je peux vous raconter mon enfance, voilà, c'est cela. Mais il emploie le terme de anamnésis. Et je prends le terme, je le coupe. Ah, décidément, dites, j'ai un problème avec mon anamnèse, là-haut. Ah, dites, alors ça va pour mieux. Hein. Ça ne va pas mieux du tout. Et celui-là, non, décidément. Bon, qu'est-ce que c'est que anamnèse? Je vous signale une chose, c'est que ce terme-là n'est pas utilisé dans le langage courant, sauf chez Freud, qui avait de la culture et qui parle de l'anamnèse dans la cure analytique. Une remontée dans la mémoire. Vous l'avez dans la messe catholique, le passage dit anamnèse, une mémoire primordiale. Et qu'est-ce que c'est? Eh bien, l'anamnèse, ana veut dire, chez Platon, c'est le préfixe qui veut dire ce qui est en haut et ce qui est du haut. Ce qui veut dire qu'au fond, l'anamnèse, c'est quelque chose qui revient non pas seulement vers le passé, bon, c'est pas la peine, donc ça ne veut dire rien, c'est pas seulement ce qui remonte vers le passé d'hier, d'avant-hier, d'il y a 20 ans et tout ce que vous voudrez, mais qui remonte jusqu'au point où l'âme avait vécu dans les réalités éternelles et dans le monde des cités. C'est-à-dire, nous passons dans une mémoire qui franchit les bornes du temps, jusque dans l'espèce d'avant même le temps, donc que nous ne connaissions pas. Si je prenais le parallèle avec la psychanalyse, il faut remonter dans les souvenirs jusqu'à ce qui a été tellement refoulé que cela maintenant n'est plus possible. Eh bien, je prendrais, si vous voulez, je renverserais mon schéma. Qu'est-ce que c'est que l'espérance par rapport à l'espoir? Eh bien, c'est précisément ce qui est tendu vers un avenir, et seulement le point où l'espoir va buter, c'est la mort. Or, l'espérance ose ce coup d'audace terrible de passer au-delà. À ce moment-là, lorsque je dis que je crois que Christ est ressuscité, que nous ressusciterons, je suis en train de poser une affirmation qui va par-delà même ce qui est constatable. Et alors, en par le fait même, eh bien, et l'espérance est inévitablement risquée, c'est inévitablement un pari, parce que je ne peux pas l'expliquer en raison. Mais, reprenez encore une fois, je reviens toujours à l'expérience très humaine, parce que c'est encore une fois là que nous vivons. Est-ce que vous pouvez donner une explication de vos amitiés humaines ou de vos amours humains? J'ose espérer que vous ne pouvez pas le donner, parce que précisément, c'est pourquoi. Mais pourquoi est-ce que j'aime. Bon, je prends le point de vue d'un homme. Pourquoi est-ce que j'aime cette femme? Je peux énumérer les questions. La seule réponse, vous savez, c'est celle que fait Montaigne à propos de son ami, parce que c'était lui, parce que c'était moi. Il n'y en a pas d'autre raison. Si je l'aime parce qu'il est beau, parce qu'il est intelligent, parce qu'il est ceci, cela, parce qu'il est riche, bon, etc., vous voyez fort bien la limite. Alors, il y a en quelque sorte, si vous voulez, ici, une sorte de passage à la limite. Nous n'avons pas de preuves. Cela donc est inévitablement un risque, ou bien un pari, comme le dit Pascal. Et à propos, incidemment, si vous voulez, c'est là que je fais de la loto-promotion. Je fais un petit livre dans la collection chez Michelon sur Pascal, et notamment un long passage sur le Paris, parce que sur le Paris, la plupart du temps, on écrit tout et n'importe quoi, comme si c'était simplement une espèce d'assurance vie pour l'éternité. Alors, en ce sens-là, donc, risque et pari, mais n'oubliez pas que chaque fois que la pensée humaine est allée à la pointe extrême de la conscience d'elle-même, elle a retrouvé cette chose-là. Et je voudrais vous citer un texte de Platon. C'est bien Platon, vous savez. Un texte de Platon dans le Phédon, ce dialogue tout à fait étonnant, où on va démontrer l'immortalité de l'âme, et on met quantité de preuves, et à la fin, Socrate renvoie tout d'un revers de main, on laisse les preuves de côté. Et alors, c'est là, je vous relis quelques lignes. Eh bien, ces choses dont nous avons fait tout au long l'exposé, voilà en vue de quoi il faut tout faire pour participer en cette vie à une vertu constituée par la pensée. C'est que la récompense est belle et grande notre espérance. Ça, tout à fait, c'est bien le mot en grec. Au demeurant, s'acharner à prétendre qu'il en est ces choses comme je l'ai exposé, voilà qu'il ne s'y est pas un homme ayant ce bon sens, que cependant cela soit au quelques degrés d'approchant pour nos âmes et pour leur résidence, puisque aussi bien l'immortalité appartient manifestement à l'âme, voilà à mon sens le risque qu'il s'y est de courir, celui qui en vaut la peine quand on croit à cette immortalité. Ce risque est beau, en effet. Celui qui n'aura jamais douté de sa propre foi et celui qui n'aura jamais vu vaciller son espérance peut s'imaginer que cela ne sont que des mots. À partir du moment où on a fait cette expérience, bon, que tant de mystiques ont décrit comme la nuit obscure, alors on sait à ce moment-là que là nous n'avons pas de preuves, mais que là néanmoins nous affirmons, et que c'est cette affirmation qui donne sens à notre vie. J'ai dépassé de quelques minutes, désolé.